что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.
Salut à toutes et à tous, bienvenue au FID Festival International du Documentaire. Comme chaque jour depuis jeudi, Radio Grenouille rend compte de la vie du festival. Rencontre avec les réalisateurs, rencontre aussi avec ceux qui œuvrent chaque jour pour que le documentaire existe et soit plus largement reconnu. Tous les jours à 18h, avec un ou deux invités fil rouge, nous mettons un focus sur une des composantes du festival. Ce soir, nous irons du côté du jury son avec Kay Mortley qui préside ce jury cette année. Autour de la table également avec nous Marc Voiry, journaliste à Radio Grenouille que l'on connaît bien.
Bonjour.
Jean-Marc Lamour qui effectivement souvent aussi sur Radio Grenouille anime des émissions plutôt portées sur le cinéma. Et dont le micro, je pense, ne fonctionne pas bien, mais avec Marc, peut-être, vous allez vous... Voilà.
Bonjour.
Guylain L. Magambo, qui nous fera donc le plaisir de partager avec nous des projections, peut-être, ou son ressentiment sur le Festival du documentaire. Guylain venant de la République démocratique du Congo. Gilles Grand, compositeur, et puis qui a été aussi membre du jury son il y a 2 ans.
Bonsoir.
Voilà, donc nous avons tout ce petit monde autour de la table. Kay Mortley, donc pour revenir à vous, vous êtes productrice indépendante, réalisatrice de documentaires radio. Vous faites également des installations sonores. Vous travaillez entre autres pour l'Australian Broadcasting Corporation. Donc effectivement, rappelons que vous êtes australienne de naissance. France Culture, vous travaillez aussi pour France Culture. Le Festival Longueur d'onde à Brest. Le Festival sonore Phonurgia Nova. Le Third Coast Festival à Chicago. Kay Mortley, vous enseignez aussi depuis 1989 le documentaire sonore à l'Université de la Radio à Arles. Et comme vous venez de le dire tout à l'heure, vous avez fait une formation à l'INA la semaine dernière et vous faites souvent des interventions d'ailleurs là-haut. Il me semblait d'ailleurs que Phonurgia Nova, enfin les ateliers que vous menez tous les ans en juillet à Arles, c'est en ce moment normalement.
C'est dans 15 jours que j'y vais.
Ah, c'est dans 15 jours.
Oui, oui.
Donc là, vous êtes présente au FID pour présider le jury son, qui est donc un prix qui est décerné depuis 3 ans. L'accent a voulu être mis donc, par l'équipe du festival sur l'aspect sonore des documentaires. Comment s'est fait la rencontre entre vous, Kay Mortley, et puis l'équipe du festival et cette idée que vous présidiez ce jury son?
Bon, je dois dire que j'étais très étonnée. C'est fait par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. La dernière fois que j'étais à Marseille, j'avais fait quelque chose par rapport à la radio au Grimm.
Oui.
Et pour Radio Grenouille.
Et c'est vrai que le Grimm est aussi partenaire dans ce jury son. Je pense qu'ils ils font les présélections.
Ça, je ne sais pas, mais on m'a contactée. Et on m'a demandé si je ferais ça sans que je sache que je serais présidente, ce qui m'a un peu impressionnée. Parce que mon rapport à l'image n'est pas particulièrement développé par rapport au son, quoi.
Donc, c'est-à-dire que vous avez appris que vous allez être présidente quand vous êtes arrivée
Un petit peu avant.
Et quelle a été donc votre réaction et vos motivations aussi pour finalement accepter cette responsabilité?
J'ai décidé d'y penser plus tard et de dire oui, parce qu'on ne m'avait pas tellement posé la question, mais que c'était intéressant parce que ça m'obligerait à penser le rapport image-son d'une autre façon, plus que le son en tant que tel autonome, qui fonctionne avec des images manquantes ou des images générées par le son.
Là, vous avez déjà participé à ce type d'expérience de juger, entre guillemets, des bandes-son.
Oui.
Mais là, pour le coup, c'était des bandes-son uniquement radiophoniques.
Oui, oui. Au prix Europa, souvent, depuis des années.
Le fait de devoir donc juger des bandes-son, mais qui sont liées forcément à une image, qu'est-ce que ça va changer dans votre façon de prendre des décisions?
Pour moi, il y a deux choses qui sont en jeu, ou deux ou trois, ou même beaucoup, que je n'aurai pas le temps de déterminer, mais c'est le rapport image-son. Et est-ce que la bande-son a une autonomie? Ou est-ce qu'elle est au service de l'image? Est-ce qu'elle doit avoir une autonomie? Ou est-ce qu'elle doit être au service de l'image? Ou est-ce que c'est tout à fait autre chose? On ne parle pas comme ça, on considère qu'il y a deux entités avec un nouvel espace qui se crée entre les deux, qui est le rapport image-son.
Et justement, donc comment vous allez définir ce rapport-là? Parce qu'il faut bien un moment prendre une décision. Est-ce que vous allez juste écouter en fermant les yeux sur l'écran, ou au contraire essayer de voir le lien que peut avoir le son sur l'image?
Je crois que pour moi c'est essayer de me situer dans ce qui me semble être la réponse juste, l'endroit juste, cet espace qui est créé par la rencontre des deux choses. Je crois qu'il ne faut pas fermer les yeux en jugeant, en écoutant, mais on peut le faire pour les raisons techniques ou autres, ou pour voir quelles sont les normes, parce que les normes ne sont pas forcément pareilles.
Gilles Grand, sur cette question, puisque vous avez été membre du jury, donc peut-être vous pouvez donner aussi un peu de votre expérience sur cette question du rapport du son à l'image.
Mais j'aime bien ce qui a été dit, parce qu'effectivement, ça met la barre très haut, en fait. Parce que en commençant juste à poser cette question, je voudrais juste dire avant qu'on pose énormément de questions sur ce prix, alors que les autres sont tout aussi délicats. Mais c'est vrai que le prix son étant le seul qui ait cette spécificité-là, on se met à creuser en fait des questions qui sont aussi valables. Quand on dit un prix français, un prix national ou un prix international, il y a des définitions, il y a des enjeux, des discussions qui vont se faire et qui ne sont pas uniquement sur les problèmes géographiques, évidemment.
Oui, mais il n'y a pas de prix image, par contre.
Non, parce que c'est une évidence, c'est que j'ai toujours pris le prix son ici au FID comme un simple rappel. C'est pas quelque chose qui doit se singulariser pour donner un prix lumière, un prix scénographie, un prix jeu d'acteur. C'est la petite exception qui confirme la règle, et c'est bien sur le son parce que c'est un vaste sujet. Évidemment, il y a la voix, il y a les bruits, il y a les musiques, il y a plusieurs intervenants souvent qui interviennent dans les films. J'en ai vu plusieurs comme ça dans ce cas-là ce soir, dans la journée. Et là, c'est un simple rappel qui consiste à dire à un moment... rendez-vous compte que ces objets qu'on prend d'un coup, d'un seul, avec leur grande richesse, sont faits de différentes choses. Et le son est un bon sujet parce que c'est impalpable. Donc on peut pas accuser les gens qui font partie du jury son d'être comme ça sur une espèce de catégorie très déterminée. Parce que dans le cadre du documentaire, c'est très vaste. Et cette question du son, soit par exemple direct ou indirect, c'est-à-dire placé après ou à un autre moment, ou... qui n'est pas tout à fait la même question qui a été posée précédemment, sont des catégories qui sont intéressantes et vis-à-vis desquelles il faut simplement se placer en tant que spectateur.
Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire des films, de leur réalisation, lorsque vous les regardez, ou vous essayez de deviner si le son, effectivement, a été réalisé à part ou en dehors, ou si l'écriture s'est faite en lien avec l'image?
Moi, j'aurais juste tendance à dire que l'enquête est assez courte et souvent le générique répond à la plupart des questions, parce qu'on est quand même dans le cadre de films dont les montages de production ne sont pas très sophistiqués et très compliqués. Et on ne doit pas débroussailler un générique complexe dans lequel il faudrait trouver qui a fait quoi. je veux dire, la lecture du générique en général explique un peu les choses. Si toutefois c'est nécessaire, on pose les questions pour en savoir un peu plus.
Oui, il y a souvent un compositeur, un créateur sonore au mieux.
Partons d'abord du cas le plus simple, c'est souvent il n'y a rien. Il y a peut-être quelqu'un qui est intervenu sur la copie à la fin pour que le son soit correct. Mais souvent, il y a un individu qui a fait un documentaire et qui a fait le son et l'image en même temps. Et il y a juste des finalisations pour les dernières copies. Et au mieux, après, on augmente le générique avec différentes personnes, différentes collaborations qui sont faites simultanément à la fabrication du film ou après coup, en post-production. Mais ça, c'est assez perceptible et c'est assez lisible sur les génériques.
Kay Mortley, donc vous qui ne venez pas de l'image, mais vraiment du son, quelle est votre relation au documentaire et à l'image ?
C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de déterminer ce qu'on peut appeler la différence entre un film radio, et je dis quelquefois que je fais des films radio, ou quelque chose dans ce goût-là, ou documentaire sonore, mais on a souvent dit films radio, pour ce type de...
Des films pour l'oreille.
Des films pour l'oreille, ce type de production qui n'est pas scriptée, quoi, qui ne part pas d'un texte, qui part de son réel et qui est construit comme ça, et qui est censé générer des images plus ou moins abstraites et être ficelées de telle sorte que le propos en ressort du son et de la parole. Donc, de creuser ce qui est la différence entre ça dans sa construction, parce qu'il y a une certaine syntaxe, et quelles sont les syntaxes diverses et variées du documentaire sonore. C'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a des différences, je crois.
Mais là, du coup, avec l'image, sans parler de là, votre position en tant que présidente du jury son, dans votre vie, on va dire, de tous les jours, quand vous regardez Enfin, est-ce que vous regardez déjà beaucoup de documentaires ? Est-ce que c'est un langage qui vous est familier, que vous aimez particulièrement, je sais pas.
J'en regarde un peu, quoi. Enfin, peut-être pas tant que je n'en écoute, mais oui, j'en regarde.
Jean-Marc, toi aussi, tu en regardes ?
Pas mal. Non, je pensais à la phrase de Johan van der Keuken qui disait que le film, c'est jamais qu'une image projetée sur un écran, alors que le son nous entoure, c'est ce qui nous rassemble. Et enfin, d'où l'attention très particulière qu'il portait au son et la distance de résonance d'un son. Il filme un lieu selon la distance de résonance. Enfin, il y a eu vraiment des très belles tentatives sur ces questions-là, quoi, de rapport image-son.
Et sans réduire ce souvenir que sa femme était celle qui faisait la prise de son et qui faisait la plupart des réalisations avec lui. Donc il y a une complicité à cet endroit-là qui était très forte.
Donc tu es allé voir Tout refleurit.
Oui, qui est justement dans la compétition pour le prix son. Mais je ne vais pas m'aventurer sur cette histoire-là, ayant des membres du jury autour de moi. Et donc c'est le premier film d'Aurélien Gerbeau. C'est un film qui s'inscrit dans le présent d'un tournage, qui est celui du dernier film de Pedro Costa, En avant la jeunesse, qui se tourne à Lisbonne. Et bon, je dois dire que pour moi, c'était un plaisir de me retrouver auprès de Pedro Costa et de revisiter ces films avec une forme chronologique. On retrouve des images de Ossos, des images de Dans la chambre de Vanda, et des images de « Où gît votre sourire enfoui ?» C'est le portrait qu'il avait consacré à Jean-Marie Straub et Daniel Huillet au cours du troisième montage de Sicilia. Alors, c'est un film dans lequel il y a une certaine économie de parole, en tout cas pas de parole de la part du réalisateur, une parole qui est celle de Pedro Costa qui va venir soit sous forme d'entretien, soit sous forme d'une parole qui émerge dans le fait de revisiter les lieux de tournage. Donc, on les retrouve dans le quartier de Fantaine à Lisbonne, qui est du coup détruit. Donc, ils sont sur les traces des lieux, des chambres dans lesquelles il a séjourné si longtemps aux côtés de Vanda. Et bon, c'est un film qui je trouve est très fan de Pedro Costa. Et c'est peut-être... Enfin, on a l'impression de rester un peu au pied, hein, rester un peu en contre-plongée. Maintenant, on voit du travail, on voit Pedro Costa sur le tournage, on voit les répétitions. Il y a des scènes très très belles où il répète en chœur avec son acteur, pour chercher le bon rythme, la respiration, la bonne métrique. Et puis en même temps, il y a une certaine timidité qui fait que je pense qu'il s'est peut-être auto-censuré. Enfin, j'ai ce sentiment-là, quoi, que le film, il ne hisse pas son film à la hauteur de ce costume.
Peut-être que comme c'est un premier film, alors je ne sais pas si d'être tout jeune réalisateur, c'est peut-être qu'il y a une certaine timidité, ou j'en sais rien.
Oui, puis, enfin, moi-même réalisant des choses, je vois très bien la posture d'aller vers un maître et de le suivre, de partager son quotidien sur un tournage, d'aller dans ses pas. Et en termes d'image, de temps en temps, il y a une tentative d'épousaille avec l'esthétique de Costa. Bon, sauf que Costa, c'est la rigueur du cadre ajustée à la proximité humaine, c'est une maestria terrible. Et que c'est vrai que s'aventurer là, ça fait tout de suite mauvaise copie. Bon, donc finalement, voilà, oui, il y a une présence dans ce film qui est bien, qui est une distance entre eux, lui filmant Costa, qui est chouette, qui est agréable. Moi, je me trouvais bien d'être auprès de Pedro Costa. Et puis un moment où cinématographiquement, j'aimerais que ça décolle, que je ne sois pas que dans de l'information, que ce vécu transpire un peu plus peut-être. Mais bon, Tour aux Fleuries, c'est quand même plus qu'intéressant. C'est reprojeté lundi 10 à 16h30 au Pharo.
Merci Jean-Marc. Rappelons que d'ailleurs sur les ondes, je pense demain, vous pourrez entendre une interview que tu as réalisée de Felipe Guerrero, le réalisateur de Paraiso.
Voilà.
Qui par ailleurs, d'ailleurs, on va le retrouver aussi dans un plateau à 10h du matin, mardi, autour de l'esthétique du documentaire.
Ouais, il vient avec un film assez complexe et ambitieux, et donc c'est vrai que bon, en complément de ce qui peut se dire sur l'esthétique et tout ça, bon, j'avais envie de présenter un petit peu plus comment intimement il s'engage dans ce travail, avec des choix très précis de matériaux Super 8, de traitement sonore une création sonore qui s'est fait à partir de son, pas de la Colombie, mais réalisé en Argentine. Son rapport à l'exil, à la distance au pays, parce que ça fait 12 ans qu'il est parti. Donc ce tournage, c'est une parenthèse, un truc vraiment à part pour lui, dans un va-et-vient. Bon, voilà, donc c'est demain sur nos ondes.
Merci Jean-Marc. N'hésite pas à continuer à participer pendant ce plateau si tu as des questions à poser, que ce soit à Kay ou à nos autres chroniqueurs
Avec
ou invités.
Plaisir.
Je vous propose une petite coupe musicale et puis on se retrouve juste après. Voilà, c'est un extrait d'un concert réalisé à Kinshasa en novembre 2002, un concert d'un instrumentarium conçu par Alain Gazelli et Benoît Poulain à partir de matériaux de récupération. La musique est signée Jean-Louis Méchali avec la participation de Bebson Delarue. Ça s'appelle les Urbs et c'est produit par les Lutries Urbaines. Voilà, c'est une musique conçue autour d'un projet d'échange avec des musiciens africains, ce qui me permet... Voilà, de manière presque naturelle, d'introduire notre chroniqueur Guilain El Magambo, qui vient de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Lubumbashi est une ville à la frontière zambienne et très ouverte sur l'Afrique du Sud, ou le sud de l'Afrique. Donc tu es au Festival du documentaire Guilain en ce moment, à peine débarqué à Marseille. Tu es à Marseille pour suivre un atelier d'opérateurs culturels organisé par l'AMI, l'Aide aux musiques novatrices, en lien avec le Festival Mimi. Mais en même temps, donc, tu es un homme de radio à Lubumbashi, tu animes une émission de reggae. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité cette émission.
Bonjour d'abord, bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs de la radio Grenouille. On m'a déjà présenté, bon, en fait, Guilain, comme l'a dit Caroline. Pour revenir à l'émission, bon, on m'a interdit de présenter l'émission parce que je suis parti à un moment crucial de mon pays où il y a des élections, parce que l'émission s'intitulait Rastaman Vibration. Alors, j'ai fustigé un peu les hommes politiques. Il fallait porter haut, justement, la vérité, mais j'ai eu des problèmes sérieux. Bon, on m'a interdit d'animer cette émission.
Une émission de reggae, franchement, qui n'était pas particulièrement dangereuse.
Bon, ils ont trouvé que c'était une émission qui était très engagée et que j'étais contre les pouvoirs publics.
Et donc, du coup, ton engagement aussi, tu le portes sur d'autres médiums, puisque tu es aussi bon, un opérateur culturel. Tu tentes d'organiser un festival hip-hop à Lubumbashi et puis aussi de faire des documentaires avec une association qui s'appelle le Vicanos Club. Est-ce que tu peux, en deux mots, nous dire comment vous avez monté cette association, ce que vous y faites et le documentaire sur lequel vous êtes en train de travailler?
En fait, le Vicanos Club, c'est un club culturel qui est structuré avec six branches. Il y a la branche musique, la branche audiovisuelle, la branche théâtre, la branche édition et la branche audiovisuelle qui a des structures, la photographie en même temps et le design. Le Vicanos Club est parti d'une histoire des amis. Bon, c'était la bande dessinée qui réunissait les gens du quartier. Et puis partira toute une passion qui va nous amener dans l'audiovisuel, le cinéma et la musique. Jusqu'au point aujourd'hui, bon, on a réalisé, on continue toujours à réaliser des œuvres qui sont quand même beaucoup appréciées dans la ville de Lubumbashi, parce que nous sommes quand même une structure, une des rares structures à Lubumbashi qui a une telle organisation. Donc c'est rare justement de trouver dans un pays comme le Congo, avec ce qu'on connaît comme événement, trouver un groupe comme les nôtres. En fin de compte, nous travaillons sur beaucoup de projets. Et c'était une occasion pour moi de venir pour mon stage à Marseille ici, de trouver aussi ce festival international de cinéma, quelque chose de rare, qui n'a jamais été, qu'on ne connaissait même pas. En fait, c'était pour moi une information à la fois et une découverte. Et quelque chose qui m'a intéressé, parce que, en fait, de compte, la branche audiovisuelle du Vicanos Club a réalisé un documentaire de 13 minutes qu'on a intitulé Ougarangaza, les royaumes d'Emsiri. C'est un documentaire qui a été réalisé en 2004. Douglas Entis et Massamouna, c'est lui le réalisateur. Et nous sommes allés dans un village à 150 km de Lubumbashi, où les 19 et le 20 décembre chaque année, il y a une manifestation cérémoniale qui commémore la mort du roi Moussiri. Alors, nous sommes allés vraiment restituer et nous renseigner pour vraiment présenter, en fin de compte, ces petits villages et cette histoire qu'on a tant parlé, qu'on a toujours appris à l'école, mais qui n'a jamais été connue par les publics et la population. On a réalisé ces petits documentaires. Actuellement, on est en train de travailler sur d'autres projets. Moi, en particulier, j'y travaille sur les enfants qui travaillent dans les mines et carrières. C'est une installation photographique et un reportage vidéo. Oui. Que je dois présenter. D'ailleurs, j'ai une exposition au mois de septembre en Afrique du Sud que je dois présenter sur les enfants des mines. À part cela, il y a un travail que je suis en train de faire sur la divination, qui sera toujours accompagné d'une installation photographique et vidéo en même temps. Là, on collabore avec Samy Balogi, qui est aussi un photographe comme moi. Donc, c'est, en fin de compte, ces travaux que nous faisons, à part ça, il y a d'autres projets de réaliser des films, des fictions. Et, parce qu'on collabore généralement avec l'université de Lubumbashi, où il y a un département de communication qui, chaque année, à la fin de l'année, il y a des TP, des travaux qui se font par les étudiants. Et ces étudiants viennent généralement nous voir pour qu'on réalise ensemble ces films de fiction, ces documentaires. On en a tant réalisé. Et d'ailleurs, il y a un projet avec l'université. On comptait justement faire un petit festival à l'université pour voir, depuis la création de ces départements, quels sont les films et documentaires qui ont été déjà réalisés. C'est à peu près ça un peu qu'on fait à Lubumbashi.
D'accord, donc les films sont diffusés du coup à Lubumbashi.
Les films sont diffusés.
Pour l'instant, pas en dehors de la ville, mais peut-être, nous l'espérons
On espère justement les diffuser partout au monde, à travers le monde, et participer aussi dans des festivals internationaux comme celui-ci. Et d'ailleurs, on a créé même un ciné-club à Lubumbashi. Parce que là, l'objectif des ciné-clubs, c'est qu'on reçoit les films de la coopération française, qu'on diffuse d'abord avec les amis. Et puis, par après, l'idée, c'est qu'avec l'université et notre club, on va commencer à diffuser toutes nos réalisations sur place. Comme ça, qu'on essaie un peu d'habituer les gens avec les films et qu'on essaie de voir justement par rapport au niveau où nous sommes.
Oui, parce que le documentaire, ce n'est pas forcément un genre populaire en RDC aujourd'hui.
Oui.
Quelle a été ta perception là, du festival ? Tu es là depuis quelques jours, on te voit régulièrement dans les salles, tu vois des films. Comment tu te sens ici ? Et puis, quel retour tu as envie d'en faire ?
En fait, j'ai beaucoup d'amour aimé et ça a tombé juste quand je suis arrivé. En tant que vidéaste et photographe, c'est quelque chose qui m'a plu. Parce que c'était pas donné à n'importe qui. C'était une occasion pour moi justement de voir l'organisation et cette structure qui est bien organisée. Bon, en fait, c'est un festival de documentaires. Parce que j'ai eu quand même à participer à des films. J'ai des films qui me donnent l'idée de faire un grand travail de réalisation. Parce que j'ai vu que il y a des genres audiovisuels que nous avons fait. Par exemple, les poèmes filmés. C'est un genre cinématographique que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on porte les poèmes à l'écran et il est illustré avec les images. C'est un autre genre qu'on a créé qui est toujours bien. Parce que je crois que c'est aussi quelque chose de bien. Parce que j'ai vu, par exemple, les films de Pierre et Vincent sous l'Himalaya. Je crois Iris, c'est Iris. C'est justement, si j'ai bonne mémoire.
Pierre Creton et Vincent Barré.
Vincent Barré, justement. C'est quelque chose que j'ai vite comparé au poème filmé. Parce que l'enchaînement des plans, tout ce qui était, c'est-à-dire justement, ça m'a rappelé que c'était un poème filmé. Pour moi, ça m'a beaucoup plu. Et par contre, j'ai vu des films, par exemple, comme Kalusha, qui m'a vraiment marré. C'est dans des situations que nous travaillons aussi, par exemple, dans le Congo. Justement, il y a un rapport, pratiquement. C'est justement, l'Afrique, il y a une interdiction, par exemple, dans mon pays, de filmer. Quand on te voit avec un appareil photo et une caméra en train de filmer, tu as des problèmes avec la police et les services de sécurité. Sans faire de compte, justement, c'est une traduction de l'Afrique qui est portée, justement, à la face du monde. Parce on sent qu'il y a une certaine volonté, parce que les courages qu'avait Kalusha, tu sens justement que c'est le même courage que nous avons, mais des fois, on est bloqué par les institutions en place qui font que les gens, en fait, on n'est pas obligé de lâcher. Justement, il y a l'espoir. Et tant qu'il y a la vie, il y a cette continuité. Et à part ça, il y a d'autres films que j'ai vus qui m'ont plu. Bon, je venais d'ailleurs de voir un instant des Nens de Joachim Jorda. C'est le procès contre la pédophilie. Et c'est quelque chose de très intéressant. C'est un film qui importe justement, c'est la justice. Et il y a cette expression, tu vois, la pédophilie a fait pendant une époque là, en Europe, ça a créé des remue-ménages partout. Bon, en fait, tu es parti des marques du trou et c'était toute une succession d'événements qui se suivaient. Donc, il y a en fait de compte, il y a eu un riche et comment dirais-je, c'est-à-dire, il y a une certaine vitalité. Une force avec ces festivals internationaux, d'ailleurs qui a sa 17e édition, ce qu'il faudrait justement qu'on puisse être aussi présent dans des genres de festivals pour échanger, communiquer et partager des expériences.
Les films africains ne sont pas très présents dans cette 17e édition. Je n'en connais pas les raisons, bien sûr. Alors, je sais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de productions non plus africaines, donc qui fait que ça réduit forcément la sélection. Mais j'imagine qu'en Afrique du Sud ou au Nigeria, il doit y avoir quand même des
films. Justement, c'est la première impression que j'avais, parce que je n'ai pas vu aucun film africain. Contrairement à tous les films que j'ai vus, c'est pratiquement toutes les nations du monde sont représentées, mais il n'y avait pas un film africain, ce qui m'a permis d'étiquer, du moins j'ai dit que c'est justement, il faut qu'il y ait une certaine volonté. Un apport.
Il faut que tu fasses tes propositions, Guylain, à Jean-Pierre Rem.
Oui, je voulais justement voir des gens pour discuter avec eux, voir justement par rapport à tous ces travaux que nous faisons et pour qu'on essaie un peu de voir, peut-être dans les prochaines éditions, venir participer aussi avec un film africain réalisé par des jeunes Congolais, des jeunes gens qui sont vraiment, comment dirais-je, les révolutionnaires de l'audiovisuel dans les années qui viendront à Lubumbashi et au Congo en même temps. Oui.
Merci Guylain, tu restes évidemment avec nous jusqu'à la fin de cette émission, donc n'hésite pas à prendre la parole. Kay Mortley, toujours avec nous. Donc nous sommes, je rappelle, en direct du Festival du documentaire pour ce dernier direct de la journée. Mais évidemment, le direct reprenne demain. Kay Mortley, vous présidez donc cette année le jury son, comme on l'a largement dit en début de cette émission. J'aimerais vous demander, à l'écoute du son dans un documentaire, qu'est-ce qui vous rend sensible ? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement ? Est-ce qu'il y a des critères ?
Est-ce qu'il y a des critères ? Justement, c'est difficile à dire. Bon, moi, normalement, j'aime une certaine volupté sonore, une certaine richesse, une certaine précision. Mais en disant ça, je sais que ça ne va pas toujours avec l'image voulue. Quelquefois, il faut que ce soit un autre type de son. Et je dois aimer ce type de son parce qu'on la recherche un peu à la radio. Pas le beau pour le beau, mais le vrai, qui est très précis, très cadré, des choses comme ça, dont on n'a peut-être pas besoin au cinéma. Et parce que peut-être qu'il y a un autre rapport avec l'image, et ça dépend de quelles images, et des choses comme ça. Et c'est ça, je suis en train de m'interroger.
Est-ce que quand on est jury, il faut essayer de se détacher un peu de ses goûts personnels,
je crois. Mais ce qui est difficile, c'est sûr et certain que, et à la radio et au cinéma, il y a une sorte de, il y a à la fois une syntaxe tacite. On ne peut pas l'écrire, on sait quand ça fonctionne. On sait plus ou moins de quoi c'est fait, mais il est très difficile de le dire. Vous laissez 3 secondes ici, vous montez ça, tout dépend de tout, tout dépend de toi-même. Et donc il est très, très intéressant d'essayer de voir quelle est la syntaxe qui marche et pourquoi. Une autre question que je me pose beaucoup et que je pose à certains réalisateurs, il faut déterminer de quel côté se trouve la voix. Est-ce que ça appartient à l'image ou est-ce que ça appartient au son ? Et ça, c'est une question que je me pose beaucoup aussi.
Gilles Grand, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée aussi il y a 2 ans quand vous étiez membre du jury ?
Ouais, on ne se les pose pas constamment parce que il y a beaucoup de questions qui se font après coup. Je crois que la question telle que vous la posiez est très intéressante, c'est-à-dire la question de qu'est-ce qui nous touche reste vraie. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui passe et c'est quand même par là qu'il faut rentrer. Il ne faut pas forcément chercher le son qu'on déteste le plus pour rentrer à l'intérieur du film par cet endroit-là. Après, il y a effectivement des questions qui sont assez différentes sur la mise en espace, la remarque qu'on avait tout à l'heure au début sur une image qui est cadrée et un son qui serait plus large. C'est vrai qu'en radiophonie ou en documentaire, on ne se pose pas les problèmes de la même manière. Et que c'est assez compliqué de situer un son par rapport à un cadre, et que se posent aussi des questions, évidemment, par rapport à la voix, ce qu'on appelle off, simplement.
Est-ce qu'il y a des tendances, quand même, au niveau des sons ? Enfin, on se rend compte déjà que le son est de plus en plus important, enfin, en tout cas, le travail sonore est de plus en plus important et conséquent dans le documentaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des des mouvements où on retrouve des mêmes techniques ou des mêmes façons de faire sur plusieurs documentaires, par exemple le son décalé par rapport à l'image, les entretiens effectués en dehors du moment filmé. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ça, ou le travail spécifique sur la création sonore, sur des sons qui amènent une certaine densité, une certaine ambiance, qui sont vraiment travaillés presque musicalement? Est-ce que ça aussi, c'est un mouvement qu'on peut dire actuel?
Il y a évidemment des évolutions assez audibles. Si cette dichotomie entre l'image et le son et éventuellement le territoire commun qu'elles peuvent construire, enfin que ces deux territoires peuvent construire ça simultanément, si c'est des choses qu'on écartelait et qu'on marquait assez clairement dans les disjonctions, maintenant on s'aperçoit qu'on peut s'amuser des disjonctions avec beaucoup de souplesse et beaucoup d'aisance. Il y a des effets de clarté aussi qui le permettent plus largement, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, le son était encore recouché en optique. Maintenant, on a quand même des technologies qui permettent de maintenir le son dans une qualité du début à la fin, de la prise jusqu'à la post-production. Donc ça ouvre des tas de territoires. Et c'est assez beau, je veux dire, comment une voix in devient off, mais ne l'est pas. Parce que nous, on garde mentalement, en fait, on imagine toujours l'endroit où elle est, parce qu'on l'a vu au moment où elle est. Il y a plein de décrochements qui sont possibles et qui peuvent se faire en douceur ou en effet de rupture. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on a une gamme d'effets de décollement qui sont beaucoup plus nombreux et dont on voit des centaines d'utilisations. Et c'est un vrai plaisir, en fait.
Kay, est-ce que vous partagez des avis, des sentiments avec les deux autres personnes avec lesquelles vous travaillez là sur ce jury son, qui sont Pascal Gobin et je ne sais plus le troisième.
C'est
Laurent Lafranc.
Laurent Lafranc.
Est-ce qu'on est d'accord?
Non. Enfin, est-ce que vous échangez ou est-ce que chacun est vraiment
seul? On échange beaucoup. Et puisqu'on vient,
j'imagine que vous n'êtes pas d'accord, ouais.
Oui et non. Et c'est curieux parce qu'on vient de trois abords différents, du cinéma, de la musique et moi du son. Et si on n'est pas exactement d'accord, on ressent les mêmes choses. C'est souvent pas un accord esthétique ou affectif, mais un accord de principe dans le travail.
Dans la démarche.
Dans la démarche, oui, je crois.
Marc, tu avais, il me semble, quelque chose à nous faire écouter en lien avec un des membres du jury.
Ouais, avec Pascal Gobin. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve dommage dans ce festival du documentaire, c'est qu'il y a des réalisateurs, on peut voir leurs films, on peut aller les emprunter à la vidéothèque. Il y a des auteurs qui participent à des jurys ici ou là. Il y a une librairie, on peut acheter leurs livres, comme celui de Liliane Giraudon, excellent. Et par contre, il y a un jury son avec un prix son, il y a des compositeurs, des réalisateurs sonores, tout ça, mais on ne peut pas écouter, il n'y a pas d'espace pour écouter. Alors, je me disais que nous, on a une radio, donc on peut réparer des injustices. Et quand on voit le portrait de Pascal Gobin, par exemple, sur le journal du FIS, c'était le journal du 7, je crois, c'est quand même un bonhomme intéressant qui a commencé la musique par le rock, la variété, qui a ensuite découvert la musique électroacoustique, qui est devenu professeur au Conservatoire de Marseille. Et qui maintenant enseigne et continue des expérimentations pointues ou pas pointues, et qui participe à beaucoup de choses, des fanfares. Voilà. Et moi, ce que j'avais envie d'écouter, parce que je me suis souvenu que j'avais un collector de Pascal Gobin avec son groupe de variétés expérimentales qui s'appelle Les Fraises. Donc, il a utilisé l'électroacoustique pour faire de la variété, ce qui n'est pas... Voilà. Dans le groupe, il y a Yves Ravega, qui est un metteur en scène. Il y a Guy-André Lagès, qui est un plasticien. Et sur la cassette en question, c'est une cassette audio, donc ça va souffler un petit peu. Il y avait aussi... c'était un concert, alors on va entendre le tout début. Il y avait aussi Pete Godert, Hélène Force et Geneviève Sorin qui jouaient dans Les Fraises. Et donc, réparons l'injustice de ne pas pouvoir écouter ce que font les artistes sonores présents au festival en utilisant Radio Grenouille.
C'était quand, ça?
Et donc, en plus, moi, je pense que ça peut être vraiment un slow de l'été. C'est...
certaines choses dites sur un certain ton peuvent devenir des expressions amoureuses pleines de tendresse.
Tu es con.
Combien
bête.
Quel imbécile. Mais que tu es bête.
Combien tu es idiot.
Idiot.
Tu es con d'être si bête.
Évidemment, quand on vous dit des choses pareilles,
nul, trop bête.
On suppose forcément que vous allez bien le prendre. Que vous le prendrez même mieux qu'autre chose.
Nul.
Non, nul.
Comme une marque d'intimité que seuls peuvent se donner des gens très amoureux. Alors, cela prend l'allure d'une caresse, d'une subtilité infinie.
Imbécile, que tu es bête, quel crétin.
Il faut certaines conditions. C'est un jeu, un pari. Chaque fois que vous traitez quelqu'un d'abruti ou de crétin, il n'est pas sûr qu'il se jette à votre cou. On ne peut pas être imbécile, abruti ou crétin pour tout le monde. Seuls les proches peuvent en profiter. À moins que
quel imbécile, que tu es belle, que tu es belle.
Tu es con d'être si belle.
Que tu es con.
C'est belle et tu es con. Tu es con d'être si belle.
C'est belle et tu es con.
Une composition co-signé Pascal Gobin, Pete Goders.
Et c'est Yves Fravega qui chante. Et juste, je finis juste par signaler que Pascal Gobin, comme on parle du Jurisson, dans l'interview du journal du FID, lui disait que ce qu'il aimait, c'est les bandes-sons qui étaient autonomes par rapport à l'image.
En tout cas, merci Marc. Charles Bois, hier, ce choix musical aujourd'hui, bon pour le slow d'été. Kay Mortley. Oui, un dernier mot, vous vouliez réagir peut-être sur cet extrait non
bah,
enfin, vous n'êtes pas obligé. Hein.
Je me disais que je voyais plein d'images dans ma tête.
La musique, c'est un élément aussi très important dans le choix, dans la sélection, enfin, le travail musical dans la bande-son.
Dans la bande-son ici ?
Oui.
C'est un élément assez compliqué, je crois. Je crois que les musiques déjà existantes doivent être traitées de façon avec des pincettes, avec beaucoup de précautions, parce que ça fait citation musicale. Et les autres musiques, c'est assez compliqué aussi.
Rien n'est simple. Hein,
non,
dans cette
mais
histoire.
La musique est compliquée, je crois.
N'est-ce pas, Gilles Grand, en tant que compositeur?
Oui, 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 il faut toujours rappeler, c'est très bien. Mais c'est effectivement compliqué parce que quand il y avait des traditions, que ce soit celle du documentaire ou des traditions de la fiction, des traditions cinéphiliques, les cinéastes pouvaient utiliser la musique telle qu'elle est utilisée par les compositeurs qui travaillent avec le cinéma. Donc ça crée des lectures complètement en désaccord avec celle de l'histoire de la musique, mais c'était un petit monde à eux, c'est-à-dire que si Bernard Herrmann avait fait ça, si tel autre compositeur, Ennio Morricone, avait fait ceci, on s'autorisait à penser qu'on pouvait utiliser Bach, Beethoven ou Vivaldi, je ne sais comment. Et ces traditions se perdant, et la multiplicité des musiques pour tout le monde, enfin, je veux dire, y compris les artistes qui font des documentaires, les documentaristes, les journalistes qui font des documentaires, là, c'est très vaste, et du coup, effectivement, il faut peut-être y aller un petit peu prudemment, parce qu'il n'y a peut-être aucun problème à utiliser Beethoven en disant « j'utilise le romantisme », mais c'était valable à un certain moment, et maintenant, ça devient un petit peu délicat. C'est-à-dire qu'on utilise quand même, en utilisant Beethoven, le compositeur le plus reconnu mondialement, c'est-à-dire celui que tout le monde écoute n'importe comment. Donc, est-ce qu'un documentariste peut se permettre d'utiliser Beethoven d'une manière décontractée, en disant « moi, je l'entends comme ça, alors je vais vous le faire entendre comme ceci ».
Alors, qu'est-ce que dans Denens, film rétrospectif Joachim Yorda, a utilisé comme musique ? Parce que vous aviez envie de nous parler de ce film à chaud à la sortie. Là, vous veniez de sortir du film quand vous êtes rentré dans le studio de Radio Grenouille, studio bunkerisé de Radio Grenouille.
Une musique exemplaire qui fait le début du film. C'est-à-dire que on entre en fait dans le film Denens à peu près de la même manière qu'on a décrit Pascal Gaudin il y a quelques instants dans l'émission. C'est-à-dire que on rentre, c'est une soirée, il y a des gens, il y a une scène, et un magnifique guitariste qui semble virtuose et d'une origine forcément espagnole joue magnifiquement de la guitare, mais on s'aperçoit très très vite, en quelques secondes, que c'est la fin du concert. Donc cette virtuosité s'achève. Mais à ce moment-là, la chose se poursuit, donc il y aurait une deuxième chanson. Mais là, le guitariste n'est plus debout, il est assis, et il joue beaucoup plus posément, beaucoup moins démonstrativement. Et un individu assez étrange, portant une sorte de toge, mais avec des chaussettes et des chaussures qui ne vont pas tellement avec sa toge, est assis assez humblement et commence une chanson assez vertigineuse parce qu'elle décrit en fait quelque chose qui est proche de ce qui va être le sujet du film. Une histoire d'injustice, une histoire inextricable de quelqu'un qui est à la marge de la société et qu'on pourrait rejeter par rapport à tous les méfaits qu'il opère, mais il se trouve que des gens l'aiment. Et beaucoup de gens l'aiment et beaucoup de gens vivent des méfaits de cet individu. Donc, c'est comme ça qu'on rentre dans le film. Et c'est comme ça que le film va être constamment ponctué. C'est-à-dire qu'assez régulièrement, lorsqu'il faudra prendre un petit peu de l'air par rapport à ce qui se passe dans le film, je veux dire, il y aura comme ça des chansons qui semblent reprendre exactement la situation du film et qui sont à peine chantées avec un seul instrument qui joue très simplement. Et ça produit des effets assez vertigineux parce qu'on est très proche de la chanson populaire, de la variété, d'une chanson à texte comme ça. Mais on sent bien qu'elles ont été faites spécialement pour le film, spécialement adaptées à des situations. Et ça marche avec d'autres décollements par rapport au théâtre et par rapport à des performances ou des choses comme ça.
Joachim Yorda, donc, dont le FID fait une rétrospective et un hommage, puisqu'il est décédé juste avant le début du festival. On va terminer sur ces mots, cette émission. Kay, quand est-ce qu'on saura qui a gagné le prix son ?
Je pense que ce n'est pas avant mardi.
Ça, c'est sûr, mais est-ce que ça sera mardi ? Ça sera mardi.
Je crois bien.
Très bien, oui. Parfait. Donc rendez-vous mardi. Oui. Merci Kay Mortley, merci Guylain Elmagambo, Gilles Grand, Marc Voiry et Jean-Marc Lamour. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre une balle dans la tête ce soir, vous pouvez toujours aller évidemment voir des films. À 19h30, le film dont Jean-Marc Lamour nous a parlé tout à l'heure, Tour aux Fleuries, est diffusé à l'auditorium, suivi de l'écran parallèle Be With Me à 21h. Et puis à 22h45, l'écran parallèle Be With Me se poursuit. Bien sûr, dans la salle 1, vous pourrez voir Les Hommes, un magnifique film d'Ariane Michel qui vous emmènera au Groenland. Et puis à 23h, The Last Communist. Et bien sûr, dans OCRDP aussi, vous pouvez voir des films comme Parezo de Felipe Guerrero, d'ailleurs Jean-Marc. Donc à 19h15, OCRDP, donc vite, 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 courez-y. Et puis la rétrospective Joachim Yorda avec un autre film, Monès comme la béquille, à 20h30, OCRDP aussi. Juste avant donc l'écran parallèle à 22h30 toutes les nuits après la catastrophe avec Les Dormeurs et Élégie de la Traversée. Je pense que j'ai fini.
Ça, non, ça va être aux variétés. Beau, l'Élégie de la Traversée, c'est de Alexander Sokourov, le grand maître russe. C'est très fortement conseillé.
très fortement conseillé aussi à 20h30 aux variétés, le film Be With Me de Eric Koo, qui a, je pense, donné le titre de l'écran parallèle Be With Me, qui a été le film qui a donné envie à Cyril Nera de faire un écran parallèle sur Be With Me. Et puis Stop Making Sense à 22h30 aussi aux variétés. Voilà pour la grande soirée quand même de documentaires à Marseille. Et puis également à la radio, puisque Radio Grenouille diffuse à partir de 21h trois courts documentaires radiophoniques. Donc je vous propose peut-être une expérience. Si vous voulez absolument voir le match, mettez la télé, coupez le son et écoutez Radio Grenouille. Vous pourrez entendre trois courts, L'usine et ses fantômes par Nicolas Ruffo, qui est une production d'arteradio.com, une production de 2004 qui dure 17 minutes. Le murmure de Bruxelles par Myriane Rouillard, qui date aussi de 2004. Et puis les échos de la forêt, ça peut être pas mal sur du foot, par Magali Schurman et Aline Hubert. Ça dure 33 minutes. Voilà, très bonne soirée à tous. On se retrouve demain matin, 9h30, en direct du FID, pour la présentation de la journée. Ciao.
It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.